Dans le cadre d'un partenariat entre le collectif des radios libres d'Occitanie et la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, les radios membres du CRLO vous proposent des magazines sur le thème des luttes contre la pauvreté et les discriminations. Aujourd'hui, Divergence FM sur le thème « Lutte contre l'échec répété des jeunes en situation d'errance et de dérive sociale ».
Mais nous, on sait qu'on va, refaire le sol après. Tu vois, on va faire du... On va faire du lino. On va remettre du lino partout. Donc là, c'est pas grave.
Okay. D'accord.
Alors maintenant, il faut qu'on applique de là...
Okay.
De là...
Quoi?
De la colle.
Alors moi, je m'appelle Joris, j'ai 13 ans et demi, je vais bientôt avoir 14 ans. Ça fait 8 mois que je suis à format BAT34, ça se passe super bien, j'aime bien. Je viens de Frontignan et voilà. J'aime bien un format BAT, je compte continuer et voilà, j'aime bien. C'est super bien pour format BAT, on est là pour aider les jeunes, apprendre un métier aux jeunes. Et voilà, ils embauchent des stagiaires éducateurs. Super. J'y vais 2 jours par semaine. J'y vais en bus et en tram. Ça se passe super bien. Moi, je kiffe bien Almanova. Super. C'est mon activité de la semaine que j'aime bien. Et j'apprends de plus en plus de trucs. J'arrive avec ma mallette d'outils prêts à tout faire, peinture, placo, on fait un peu de tout. On fait des déménagements, on monte des meubles, on rénove des appartements. Là, hier on était sur un chantier, on devait faire la peinture, et voilà. En tout cas, on a fait la peinture, et genre, mardi, on va dans un autre chantier.
On va dire qu'on est multiservice. C'est un support qui permet à nos jeunes de pouvoir se découvrir et éventuellement se diriger vers l'apprentissage. Donc moi je suis François, je suis encadrant technique. Donc j'ai un diplôme d'encadrant technique d'activité par l'insertion économique. Voilà, que j'ai passé à l'IRTS. Ça fait maintenant 9 ans que je travaille à Almanova Format BAT. Et donc, comme vous a dit certainement ma collègue, on accueille, nous, des jeunes donc, en grande difficulté, surtout donc, des jeunes mineurs confiés à l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. Donc, et donc, on a la charge de former ces jeunes dans le métier du second œuvre du bâtiment, en fait.
Je m'appelle Jean-Paul O, j'ai 45 ans, je suis éducateur technique et responsable de l'association Almanova. Le projet est né alors que j'étais éducateur sur une maison d'enfants. J'ai rencontré un homme formidable qui s'appelle Karim Bouziane, qui est aujourd'hui directeur d'un dispositif qui s'appelle Un toit où apprendre. On a vite eu un intérêt pour l'activité de chantier à destination des jeunes de maisons d'enfants. Parce qu'on trouvait dans cette activité de chantier non seulement une activité qui valorisait le savoir-faire, mais une activité d'inclusion dans les dispositifs sociaux, dans les maisons d'enfants, entre autres. Et puis, on a étendu notre activité au-delà de l'établissement, à savoir l'Enclos Saint-François, et on a voulu être un acteur économique. Et petit à petit, on a créé cette association qui a pour objet social la lutte contre l'échec répété des jeunes pour en faire un dispositif économique à vocation sociale. C'est des jeunes confiés par l'aide sociale à l'enfance, c'est des jeunes qui ont parfois 14 ans et qui vont jusqu'à 21 ans. Donc les jeunes sous l'obligation scolaire ont des doubles mesures, des mesures d'accompagnement social, mais aussi un lien avec l'éducation nationale. Et pour le reste, on est sous convention d'objectifs avec le conseil départemental de l'Hérault.
Les grandes lignes des missions de l'aide sociale à l'enfance, c'est d'abord la protection des enfants à travers en fait le repérage des situations de risque, de danger ou de danger des mineurs.
Nicolas Lederman, chargé de mission de la direction enfance et famille du département de l'Hérault.
Donc de 0 à 18 ans et puis après effectivement de pouvoir en fonction de ces éléments de danger proposer un certain nombre de dispositifs qui peuvent être soit préventifs, soit des dispositifs d'accueil, des mesures éducatives à domicile par exemple entre autres choses, et c'est à travers toute cette palette d'interventions qu'intervient l'aide sociale à l'enfance jusqu'à des mesures effectivement qui sont un peu plus connues par le grand public, qu'on va appeler des mesures de placement, même si effectivement dans le jargon on a une autre appellation, mais ce sont ces mesures qui sont le plus connues par le grand public et qui représentent, puisqu'elles sont effectivement plus particulières, le plus gros de l'activité de la direction enfance et famille, et qui comprend entre autres choses aussi un certain nombre de services départementaux, donc le service départemental relatif à l'information préoccupante hein, sur les éléments de danger qui peuvent être transmis et qui seront évalués, des services départementaux sur l'accueil familial, puisque le département a près de 700 assistants familiaux qui sont en fait des agents de notre collectivité, et puis on a un service adoption, un service dédiés aux mineurs non accompagnés, MNA, qui peuvent être eux un peu plus connus aussi sur le grand public. Voilà, et puis enfin, on a un service, donc établissement et moyens, qui est le service qui régit le fonctionnement d'un certain nombre d'établissements que l'on peut financer, mais aussi des conventions sur toutes les activités que je mentionnais précédemment. Voilà, pour donner quelques ordres d'activité et de grandeur, à vos auditeurs, nous sommes à peu près 2800 enfants confiés, donc dans le cadre de mesures de placement sur le département de l'Hérault, à peu près 5500 enfants donc suivis dans le cadre de mesures éducatives à domicile, plus sur le versant prévention. Et voilà, nous intervenons sur un budget qui est de l'ordre de 180 millions pour les services départementaux dédiés à ces différentes missions.
Alors là, regarde, il nous reste juste un petit bout à mettre ici et un bout ici. Tu vois ? Là et là. D'accord ? On va se faire ça tranquillement ce matin.
Hier, tu vois, j'ai fait avec lui déjà. Donc ouais. Il voit avec la colle et tout. T'as vu, on l'a fait hier ensemble. Donc maintenant, tu vois, est-ce que celui-là est assez grand ?
Alors, il faut les outils, c'est-à-dire un cutter.
Oh, pardon.
Un cutter. J'ai dans ça.
Le cutter, je crois qu'il est là-bas. Est-ce qu'il y a l'échelle?
Okay. Alors, cutter.
On prend un premier échelle, on va calculer au-dessus de la porte, à mesure. Oui. Comme ça, on va mettre la colle et on va coller le papier de verre au-dessus de la porte. Okay.
Alors, moi, je suis Nasrin Belbachir, je suis éducatrice depuis une quinzaine d'années. Et donc à la Manova depuis bientôt 7 ans sur les chantiers éducatifs. On est deux accompagnants, donc deux éducateurs. Il y a un stagiaire aussi, éducateur, moniteur éducateur. Et du coup, il y a deux jeunes qui sont là, des MNA, c'est mineurs non accompagnés. Voilà, c'est des jeunes du coup qui sont pris en charge par le foyer de l'enfance parce qu'ils sont mineurs. Et du coup, c'est vrai que nous, on travaille autour de trois pôles, de la découverte des métiers du bâtiment, de la remobilisation et de l'insertion. Clients. On travaille beaucoup avec les grosses structures sociales, médico-sociales sur Montpellier. Donc là, par exemple, c'est un appartement qui est loué par la Vitarelle.
La Vitarelle, un CHRS de Montpellier, centre d'hébergement et de réinsertion sociale.
On accueille vraiment tous les jeunes de Montpellier qui sont placés ou non, en tout cas qui sont suivis par un éducateur. Donc il y a des jeunes qui viennent d'ITEP, qui viennent de MEX, qui viennent de structures, vraiment, c'est vraiment très large. Et on les accueille de 13 à 21 ans, 21 ans avec un contrat jeune majeur. Mais c'est vrai que dès que le jeune est motivé et a envie de connaître, de participer au chantier éducatif, souvent en rupture scolaire, familiale, qui ont des difficultés, et c'est vrai que le manuel les intéresse, donc on accueille vraiment tout public.
Sur les besoins repérés, déjà, il faudrait effectivement pouvoir mentionner la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté et d'accès à l'emploi, qui est en fait ce qu'on appelle une stratégie pauvreté, hein, pour le dire plus sobrement, sur lequel le département a contractualisé avec les services de l'État, notamment pour travailler sur l'accompagnement des sorties de l'aide sociale à l'enfance. Donc finalement, les items du décrochage scolaire et des mineurs non accompagnés, hein, puisqu'ils se tournent vers les services du département, dans certains cas bien avant 16 ans, mais pour la majorité d'entre eux à partir de 16 ans. Et c'est effectivement à partir de cet âge qu'on a toute cette réflexion autour de l'accompagnement des sorties de l'aide sociale à l'enfance. Et donc dans ces cas-là, les priorités, en tout cas, elles sont... alors, celles de l'hébergement et de la santé, mais elles sont plus larges et plus nombreuses que ça, puisque dans un certain nombre de déclinaisons, il y a l'accès au logement social, l'accès effectivement aussi à un certain nombre de dispositifs d'insertion sociale et professionnelle, aux droits plus largement, par exemple à un compte bancaire, et puis à un certain nombre de dispositifs, comme je le disais précédemment, de santé, mais également encore plus largement de loisirs et de vacances, tout simplement.
Alors c'est vrai qu'en fait, le chantier, c'est plus un support. C'est un support comme avec d'autres activités ou d'autres, comment dire, d'autres médias. C'est-à-dire vraiment, on utilise le chantier comme moyen alors, de travailler, bien sûr, l'éducatif. Et comme je disais, vraiment de la découverte des métiers du bâtiment, de la remobilisation pour certaines personnes qui ont des difficultés à aller à l'école, à se motiver, à avoir des projets. Et de l'insertion pour les jeunes, bientôt jeunes adultes en tout cas, avant de rentrer en formation. Donc le but, c'est vraiment d'être sur les chantiers éducatifs, de leur apprendre. Alors c'est vraiment de leur apprendre un savoir-être, un savoir-faire aussi technique du coup, et un savoir tout court. Parce que c'est vrai que par exemple, avec les jeunes MNA, on a un partenariat avec une association qui s'appelle Agir ABCD, qui donne des cours de français le lundi et le vendredi pour leur permettre d'avoir un accompagnement le plus complet possible. Pour qu'ils apprennent de mieux en mieux à parler français, à écrire, pour leur permettre justement après d'avoir des projets à l'école, en formation ou en alternance.
On va dire que je suis à la fois tombé dans le bénévolat assez jeune, on va dire, et j'y suis venu à la fois de manière professionnelle et en termes d'investissement bénévole.
Michael De Smet, président de l'association Almanova.
Alors moi, ce qui m'a séduit dans le projet d'Almanova, je pense que comme beaucoup d'associations, on est dans une logique de lien social, hein, donc on est sur une association qui a pour vocation, dont l'objet social est l'accompagnement des jeunes dans le sens large, et l'insertion des jeunes dans le sens large, même si là, nous, on est aussi porteurs de dispositifs, hein, donc puisqu'on s'inscrit dans le dispositif de la protection de l'enfance, puisqu'on est conventionné avec le conseil départemental, mais c'est un projet associatif qui est plus large, et c'est vrai que je pense que c'est des lieux communs, mais pour moi qui sont très importants et enfin voilà qui parlent même encore plus à l'heure actuelle, la jeunesse, hein, comme on le pense, c'est l'avenir de la société. Je pense qu'il n'y a rien de plus important et d'une certaine manière de plus beau que de participer, on va dire, à l'insertion des jeunes dans le sens large. Donc voilà, avec la protection de l'enfance. Ça permet à l'association, on va dire, de réaliser son objet social, et c'est vraiment ce qui m'a séduit. Et d'autant plus que je pense qu'après, c'est souvent le cas pour les personnes qui travaillent ou même qui sont investies. Je pense que voilà, je pense qu'il y a une dimension plus large. Hein. L'association, c'est vraiment, pour moi, c'est quelque chose c'est faire société. Et je pense que d'une certaine manière, même si après, il y a aussi, je pense, comme tout bénévole, des choses qui sont intéressantes. Et je trouve aussi mon intérêt par ailleurs, hein, au sens, c'est une gestion intéressée, mais je pense que j'y trouve aussi mon intérêt. Mais je pense qu'il y a aussi cette question du sens qui fait qu'on trouve le sens dans cet investissement associatif. Et cet objet social permet de trouver ce sens.
Oui, bonjour, je m'appelle Mustapha, je suis stagiaire du moniteur éducateur de l'école Simia. J'ai demandé d'asile il y a 3 ans. Et après, j'ai fait les études en France, j'ai appris la langue française et maintenant, je fais les études de moniteur éducateur. J'ai fait mon stage de 14 semaines ici, dans la station Almanova, pour la réinsertion, la remobilisation et le découvrir. Pour les gens qui ont des difficultés ou des gens qui viennent de plusieurs établissements. Et il y a aussi des gens de Amena, mais mineurs non accompagnés. Et le projet pour la station, pour découvrir un métier pour les jeunes, pour remobiliser les jeunes, pour aider à trouver leur chemin. Je me sens un peu proche de ce genre parce que j'ai beaucoup la même. J'ai beaucoup la même situation. Il n'y a pas longtemps que j'étais comme leur situation. Et je n'avais pas les papiers français. Je ne parle pas très bien français, mais j'ai fait des études. Et maintenant, je peux le comprendre. Je peux savoir qu'est-ce que leurs besoins. Parce que quelquefois, quand on ne parle pas très bien français, c'est difficile de leur expliquer qu'est-ce qu'on a besoin, qu'est-ce qu'on veut savoir, qu'est-ce qu'on veut découvrir, qu'est-ce qu'on veut dire exactement. Mais avec les jeunes, moi, Amena, je le comprends très bien parce que j'étais comme leur situation.
Alors, auprès de ces jeunes, on intervient de manière sociale, dans une relation éducative. Donc l'objectif, c'est de permettre l'inclusion au sens large de ces jeunes. Une inclusion qui passe notamment par les chantiers éducatifs, mais pas seulement. On a des activités sportives, des activités culturelles, qui permettent aux jeunes déjà de se stabiliser au niveau de leur parcours et puis d'envisager des projets d'insertion. Alors ça se matérialise par un accompagnement en chantier éducatif. Les chantiers éducatifs ont une double mission. L'objectif déjà, c'est de réaliser dans un premier temps les attendus en termes de chantier, les prestations. Et à travers ces réalisations, on a un support éducatif pour rentrer en relation avec le jeune, essayer d'aller un petit peu plus loin dans cette relation, d'essayer de comprendre, essayer d'identifier les problématiques de chaque jeune et apporter des actions d'amélioration, d'apaisement, de contenance auprès de ce public. Et enfin, ces chantiers permettent aussi d'ouvrir sur une vision qui est un petit peu plus professionnelle et créer des projets d'insertion. Au premier abord, quand on voit une équipe d'apprentis arriver sur un chantier, alors absolument protéiforme, on peut se dire qu'est-ce que c'est ces chantiers d'insertion. Mais en réalité, ce qu'on voit en second plan, ce que nous disent régulièrement les utilisateurs du dispositif, nos clients entre guillemets, qu'on a une action formidable parce qu'on amène les jeunes vers une reconnaissance sociale, un nouveau statut, un statut d'acteur économique. Et on les valorise à travers ce statut-là. Et on oublie bien souvent qu'ils sont là parce qu'ils ont eu des pannes de parcours, des problématiques quand même assez prégnantes dans leur vie et qui font qu'ils sortent un petit peu des trajectoires scolaires normées. Donc avec ces jeunes, avant tout, on travaille la relation. C'est une nourriture affective qu'on leur apporte au-delà des techniques de chantier, de l'apprentissage et de la préqualification. On leur apporte une relation, une attention, une revalorisation qui leur permettent de rebondir sur des périodes un petit peu compliquées de leur vie. Mmh. Effectivement, la réalisation du chantier, c'est bien, mais la réalisation, la restauration de liens humains, parfois institutionnels, parce que des fois, la vision institutionnelle est dégradée en raison de ces crises, et quand même l'objectif sont les objectifs principaux de notre accompagnement.
Le plus dur, ça va être derrière le radiateur, bien entendu. Alors là, ce qu'il faudrait, c'est peut-être récupérer un petit pinceau pour pouvoir passer derrière le radiateur. Parce que regarde, là, on n'y arrivera pas. Alors, il faudrait un petit pinceau. Si tu as déjà trouvé un petit pinceau.
Quand on a choisi les chantiers, on n'a pas pensé au parallèle avec la reconstruction psychologique, mais en effet, on voit s'opérer à travers la rénovation, la restauration, une certaine forme de rénovation de soi, de mise à jour, de fin de cycle pour démarrer sur quelque chose d'autre. Il existe également des chantiers, des ateliers cuisine, qui sont un moyen très efficace pour lutter contre les formes d'échecs, de rupture de parcours. Les chantiers, parce que c'est un moyen très concret de mettre tout de suite une méthodologie en œuvre, un accompagnement, un apprentissage en œuvre. Et puis les réalisations sont visibles à court terme. Donc très rapidement, on arrive à passer d'un stade dégradé à quelque chose de rénové.
Si vous voulez, on a des bilans chiffrés qui peuvent nous indiquer un certain nombre de pourcentages, mais derrière ces bilans chiffrés, il y a une réalité sociale qui est un petit peu différente, puisque les jeunes issus de l'aide sociale à l'enfance ou au sein de l'aide sociale à l'enfance connaissent des parcours individuels qui sont finalement très variés. On a effectivement des jeunes qui sont en très grande difficulté. Je parlais de situations prostitutionnelles précédemment, et ça peut être effectivement parfois jusqu'à des situations d'errance, mais on a aussi des jeunes qui peuvent être dans des parcours universitaires au sein de la fac Paul Valéry. Donc ces chiffres-là ne permettent pas de donner à voir, en tout cas, de cette diversité des parcours. Par contre, ce qu'ils montrent, c'est qu'effectivement, la condition d'accès à des logements, à des hébergements, ce sont des conditions de ressources financières. Et certains des jeunes de l'aide sociale à l'enfance, bien qu'ils soient accueillis, accompagnés, n'ont pas suffisamment de ressources financières pour avoir des hébergements temporaires ou des logements pérennes. Et c'est sur ce type de difficulté qu'il reste effectivement un certain nombre de travail à faire. Après, des choses ont été aussi mises en place par le CROUS pour des jeunes qui ont un parcours au sein de l'aide sociale à l'enfance, leur permettant notamment de pouvoir garder leur logement d'une année universitaire à l'autre sans qu'il y ait de rupture entre la fin des partiels en juin et puis la reprise de l'année suivante en septembre. Donc là, on a cette continuité. Si vous voulez, qui est dorénavant assuré. Pour autant, il reste du travail à faire sur ce type de passerelle et il reste du travail à faire sur des conditions d'accès à des dispositifs qui ne sont pas toujours remplis ou facilement remplissables pour des jeunes au sein de l'aide sociale à l'enfance pour faire en sorte que ces parcours, finalement, ils soient plus continus et plus fluides.
J'aimerais bien qu'on continue un petit peu sur la lancée. Alors, sur la lancée, je ne sais pas si ça vous parle, mais des états généraux de la vie associative, il y avait eu un contrat d'engagement réciproque entre l'État, les associations et les collectivités locales. Et j'aimerais cet engagement réciproque, justement, dans cette logique de faire société, soit relancé. Il y avait un certain nombre de choses qui ont été mises en place, notamment depuis le centenaire de la loi de 1901. Ça a été initié, notamment, justement, à l'occasion de ce centenaire de la loi de 1901. Et que ça continue, que ça soit vrai, véritablement, même s'il y a un certain nombre de choses qui sont mises en place, mais qu'on donne les moyens justement au monde associatif, les moyens de ses ambitions. Vous avez aussi le mouvement associatif et la Fonda, notamment un certain nombre de qui ont justement mis en place. Alors peut-être pas la Fonda, mais plus la Vise, si je me souviens bien, puisque là ça se mélange peut-être un petit peu. Mais il y a un certain nombre de propositions qui sont portées par les représentants du mouvement associatif, que ce soit la Fonda, qui on pourrait appeler un think tank associatif, ou que ce soit la Vise. Là, on est plus sur un des acteurs formateurs de l'accompagnement associatif et de l'ESS de manière générale, ou le mouvement associatif, qui lui a pour vocation de représenter le mouvement associatif, puisqu'il regroupe l'ensemble des grandes fédérations. Et bien, j'aimerais bien que tous ces engagements, toutes ces propositions soient prises en compte et qu'on puisse, par ce biais-là, vraiment avoir les moyens de nos ambitions. Je pense que, alors je vous ai peut-être aussi suivi, il y a eu un moment donné, tous les acteurs justement du champ social il y a eu une petite tribune qui alertait, on va dire, sur les conditions de plus en plus difficiles. Et alors, pour l'instant, nous, à Almanova, on est un petit peu épargnés, mais Je pense que ça peut être que provisoire, mais ça devient de plus en plus difficile. Et je pense qu'il faut vraiment, a fortiori, dans ces temps de crise que l'on rencontre, que l'on traverse, bah voilà, vraiment entendre aussi cet appel. Et voilà. Et parce que sans ce dernier rempart, en tout cas moi c'est comme ça que je le vois, que constitue le mouvement associatif et les acteurs de l'accompagnement social. C'est vrai que je pense que voilà, la société, je pense que ça ne pourrait qu'aller encore plus mal. Et je souhaite que cet appel soit entendu et ces propositions soient saisies par le pouvoir politique justement pour faire ensemble et œuvrer pour, comment dire, voilà, pour une meilleure société.
Ces derniers temps, avec le conseil d'administration, on a réfléchi sur des perspectives de développement. On imaginait proposer une action équivalente, non pas cette fois-ci pour le département, mais pour la métropole, sur les quartiers, les QPV, les quartiers prioritaires de la ville. Mais ce projet stratégique peut-être est remis en question parce que ça demande une grosse mobilisation, ça nous demande de franchir un seuil qu'aujourd'hui peut-être un petit peu risqué au regard de notre modèle économique. Alors les perspectives, c'est pas celles qui manquent, hein. On imagine peut-être investir la dimension sportive. On sait qu'il y a un parallèle entre les chantiers éducatifs. On observe aussi la nécessité d'accompagner les jeunes sur du renforcement physique, psychologique. Ça pourrait être éventuellement un projet de développement à très court terme.
Il faut pas dire c'est trop tard. Toujours on a le temps, on peut avancer n'importe quand, même quand on a perdu 3 ans, 4 ans, 5 ans de notre vie. C'est pas perdu. On est ici pour apprendre. Il faut pas regarder l'âge, il faut pas regarder à l'arrière. Il faut juste avancer dans la vie. Si on regarde toujours derrière, qu'est-ce qu'on a perdu ou quoi, on va pas avancer dans la vie.
Bonjour, moi c'est Cybelle, j'ai 17 ans. Oui, donc j'ai été pendant quelques mois en foyer. Et alors, comme je n'allais pas à l'école, je faisais pas grand-chose, Formabat est venu à moi et m'ont proposé de faire un stage de découverte de bâtiment. Ça a été ma première expérience et je me suis complètement régalée, c'était génial. Alors j'ai appris un métier et au-delà de ça, j'ai appris comment gérer ma vie professionnelle. C'est vraiment des chantiers de réinsertion pour les jeunes, c'est génial. Moi qui connaissais rien avant, j'ai vachement beaucoup appris de choses. C'est des éducateurs qui savent ce qu'ils font, quoi. Ils sont géniaux. Ils aiment leur métier, ils font. Alors oui, on a fait principalement un peu de rénovation, de la tapisserie et beaucoup de peinture. Alors moi, dans mon cas, ils m'ont aidé professionnellement à avancer, à trouver des stages, tout ça, des patrons, dans le domaine où je voulais continuer. Bien sûr, ça m'a plu, je travaille toujours dans un métier manuel. Là, je recherche en métier d'espace vert.
On va prendre ça pour nous aider.
Jeunes en errance, jeunes en devenir. Une réalisation de Divergence FM. Merci à Joris, François, Jean-Paul, Nicolas, Nasrine, Michael, Mustapha et Cybelle, sans qui cette émission n'aurait pas pu voir le jour.
C'était un magazine du CRLO en partenariat avec la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.